Vous écoutez
RMC.
Soyez toutes et tous les bienvenus sur RMC. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure de retrouver Quentin Vinet pour le journal. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. L'explosion de la consommation de cocaïne en France depuis 20 ans. Une étude alerte ce matin, un Français sur 10 a déjà essayé dans le pays. L'Europe va-t-elle passer en force sur le Mercosur? Malgré la saisie de la justice européenne durant la semaine, sa bataille, vous verrez en coulisses à Bruxelles, on va vous expliquer. Et puis on va revenir sur le bilan catastrophique des Français à l'Open d'Australie de tennis. Il n'y a plus aucun Français, plus aucun tricolore, le dernier a été éliminé ce matin.
Jamais la consommation de cocaïne n'avait été aussi élevée en France.
Oui, et ça ne concerne pas que les bourgeois des centres-villes. Vous vous souvenez, c'est ce que disait Emmanuel Macron récemment. C'est l'INSERM qui alerte ce matin sur la hausse spectaculaire de la consommation de cette drogue. Un Français sur 50 avait essayé il y a 20 ans. Eh ben, on est maintenant à 1 sur 10. Cette drogue de moins en moins chère, d'une meilleure qualité, de plus en plus facile d'accès aussi via les réseaux sociaux. L'INSERM alerte sur l'inefficacité des politiques publiques, essentiellement axées sur la répression des consommateurs. Et la preuve, tiens, à Bordeaux, Pierre Bourgès pour RMC, c'est à se demander qui n'en a pas consommé chez les jeunes.
Consommer de la cocaïne, ces deux étudiants le reconnaissent, c'est presque un passage obligé.
C'était assez festif, c'était à l'étranger, c'était juste par curiosité pour voir ce que ça faisait.
J'en ai entendu parler beaucoup autour de moi. On m'a souvent parlé des effets qui étaient soi-disant incroyables. Pourquoi pas essayer de ressentir ces effets, voir ce que ça donne.
Pour Louis, sa première fois, c'est en 2023, après une soirée dans un bar avec ses amis. Et pour acheter de la cocaïne, rien de plus simple, tout s'est fait sur les réseaux sociaux.
On est sorti du bar, on a envoyé un message. Le mec est arrivé en 20 minutes, on a attendu 5 minutes à l'appart. Il n'y avait pas l'attente, tout le stress qu'il peut y avoir avant la prise, justement, on aurait attendu 2 heures, peut-être que je me serais dit, j'ai plus envie.
Et c'est seulement après avoir consommé qu'il a pris conscience des risques.
À un moment, je me suis dit, est-ce que je serais pas en train de faire des bêtises?
Depuis, il n'en a pas repris, contrairement à Hugo, lui a commencé à prendre de la cocaïne en septembre pour le travail.
On a l'impression que toutes nos idées sont merveilleuses, on avait ce sentiment d'être plus rapide, etc., qui au final, sur la durée, est complètement faux.
Et en 4 mois, il a multiplié sa consommation par 7.
J'ai eu une frayeur, on a extrêmement mal au cœur, ça tape, on a les jambes qui tremblent à fond. Je me suis dit, ok, ça peut être dangereux.
Un électrochoc qui lui a permis d'arrêter net sa consommation de cocaïne.
Alors le rapport explique que la cocaïne vient essentiellement de Colombie. La production a tellement explosé que le marché nord-américain ne suffit plus en fait à écouler la drogue. Alors il se tourne vers l'Europe, les narcotrafiquants, l'Europe qui est devenue le deuxième marché mondial.
Est-ce qu'elle est si abondante? Est-ce que vous la voyez tant que ça autour de vous? Les jeunes, les moins jeunes, les professionnels aussi, pas que les fêtards si j'ose dire. Vous témoignez au 32-16, la cocaïne partout, pas cher, fléau dont on parle avec vous au 32-16, n'hésitez pas.
Il y a d'autres chiffres ce matin dans l'actualité de Santé publique France sur la violence à l'école chez les enfants de 6 à 11 ans, autrement dit du CP jusqu'au CM2. Un élève sur 5 présente des comportements agressifs, 1 sur 6 est victime de harcèlement. Et alors c'est dans ce contexte qu'il y aura une marche blanche dimanche à Mitry-Mory en Seine-et-Marne, en hommage à Camélia, la lycéenne de 17 ans qui s'est suicidée il y a 10 jours après avoir dénoncé le harcèlement qu'elle subissait dans son établissement, Alfred Orange.
Dans le quartier où vit la famille de Camélia, Alban, la boulangère, offre baguettes et boissons en souvenir de la jeune fille.
On a organisé une aumône en la mémoire de Camélia. Ça nous a tellement touchés, en fait, son histoire. On voulait faire quelque chose, en fait, pour elle et puis pour un petit peu penser à elle aussi.
Devant son lycée, Camélia est aussi dans tous les esprits. La marche blanche de dimanche est déjà inscrite dans l'agenda de nombreux élèves.
Oui, on compte y aller pour soutenir toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement.
Je vais y aller avec beaucoup de membres du lycée et de mes amis. On va y aller tous ensemble.
Même ma mère raconte venir participer pour soutenir la famille, etc.
Des parents d'élèves viendront aussi grossir les rangs.
Pour dénoncer le harcèlement, les enfants qui ne sont pas écoutés, même quand ils dénoncent.
Amara sera là en famille pour crier sa colère.
On est vraiment tous énervés, on est vraiment très malheureux. On est en train de préparer les pancartes sur du carton avec des morceaux de bois. Oui, oui, oui. On prépare ça, bien comme il faut. Et on veut vraiment être présent pour la famille et dire la colère qu'on a et qu'on est vraiment de leur côté.
La marche, qui doit durer toute la matinée, se terminera devant l'établissement où la adolescente était scolarisée.
Nous faisons face à une alerte sanitaire d'ampleur. Voilà ce que dit le gouvernement à propos de l'ouverture de 2 enquêtes à Bordeaux et Angers où sont morts récemment 2 nourrissons ayant consommé un lait infantile possiblement contaminé par une substance d'origine bactérienne. Il n'y a pas de lien établi, mais c'est la piste évoquée et c'est la raison pour laquelle les géants Nestlé et Lactalis ont lancé de vastes campagnes de rappel dans de nombreux pays. La France en fait partie. Et tiens, ce matin, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, annonce sur BFM TV, elle assure que tous les lots contaminés ont été retirés des rayons.
Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'à l'heure où on se parle, il n'y a pas d'alerte scientifique
Oui, mais les autorités sanitaires, à partir du moment où il y a des signalements de la part des consommateurs, peuvent lancer des investigations. Ça n'a pas été le cas.
Non, en fait, c'est les industriels qui sont en responsabilité de faire ces autocontrôles. Nous, nous avons saisi avec l'agence l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, pour les deux bébés, malheureusement, qui sont décédés, sans que de lien n'ait pu être établi. Il y a une enquête en cours.
La bataille des municipales attend 2 mois. Le RN fixe un objectif. Jordan Bardella espère que son parti remportera plusieurs dizaines de communes en citant nommément la ville de Marseille. Jean-Luc Mélenchon lui espère depuis Toulouse que son parti LFI incarnera la nouvelle France de la diversité, celle, dit-il, du grand remplacement. C'est aujourd'hui que sont examinées à l'Assemblée les 2 motions de censure déposées par le RN et les Insoumis après le 49-3 sur le budget dans la semaine. Peu de chances que ça aboutisse. Le PS ne les votera pas. Marine Le Pen ira en personne défendre la motion de son parti du Rassemblement National en plein procès pourtant des assistants parlementaires européens du FN. La bataille qui continue entre les dirigeants européens à propos du traité avec le Mercosur. On en parle beaucoup, vous savez que Bruxelles a donné son feu vert, Strasbourg a saisi la justice européenne. La question maintenant c'est de savoir si le traité sera quand même appliqué. Sébastien Krebs du service politique à RMC, chef du service politique en direct ce matin. Il en était question hier soir en Conseil européen.
Oui, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ouvre assez clairement la porte. Il y a un intérêt clair, dit-elle, pour que cet accord s'applique dès que possible. Elle raconte que la question a été soulevée par plusieurs dirigeants européens et nous serons prêts, dit-elle, lorsque les pays du Mercosur le seront. En fait, la Commission peut tout à fait appliquer l'accord commercial provisoirement malgré le vote du Parlement européen qui a saisi la justice européenne. Une application provisoire qui sera possible dès lors qu'au moins un pays du Mercosur aura ratifié l'accord, peut-être dès le mois de mars, si l'on en croit un diplomate européen cité par Reuters. La décision de justice, elle interviendra beaucoup plus tard, dans plusieurs mois. Selon le président du Conseil européen, il y a bien une majorité des États membres favorables. C'est le cas de l'Allemagne qui pousse fort dans cette direction. Il est temps d'agir, juge le chancelier allemand. L'Allemagne qui veut au plus vite exporter ses produits industriels et notamment ses voitures. La France, elle s'y oppose, mais pourrait à nouveau se retrouver isolée. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé cette semaine à ce que le vote du Parlement soit respecté. La porte-parole du gouvernement juge même qu'appliquer l'accord sans attendre serait, je cite, un viol démocratique. Mais la Commission n'a pas l'air de le voir comme ça.
Il y aura une réunion à 3, Ukraine, Russie, États-Unis, aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis, au lendemain de la rencontre entre Russes et Américains sur la guerre en Ukraine, réunion qui a été jugée utile par le Kremlin. Il faut absolument parler ce matin du bilan catastrophique des Français à l'Open d'Australie Tennis, premier tournoi du Grand Chelem de la saison. On n'est même pas au bout de la première semaine. Et il n'y a plus de Français, plus de tricolores. Le dernier, Corentin Moutet, a été battu tôt ce matin par l'Espagnol Carlos Alcaraz. C'est pas bon du tout, hein, Eric Salio.
Oui, Corentin Moutet a tenu 2h05 sur la Rod Laver Arena face au numéro 1 mondial, hein, quand même, Carlos Alcaraz. Le score 6-2, 6-4, 6-1 est sévère pour le Français, qui a connu un quart d'heure de gloire dans le deuxième set lorsqu'il a aligné 4 jeux d'affilée, mais l'Espagnol s'est montré trop puissant. Ce qui frappe, c'est que le tennis tricolore continue de souffrir dans les grands chelems. Écoutez bien, c'est le 16e majeur consécutif où aucun joueur français n'est capable d'atteindre les quarts de finale. Faut reconnaître que les tirages au sort cette année ont été compliqués en Australie, mais à l'exception d'Arthur Géa, tombeur du 19e mondial, il n'y a eu aucune performance. La longue absence d'Arthur Fils, qui fut 14e mondial au printemps dernier, est préjudiciable. Mais on le dit sur le retour, début février, au tournoi de Montpellier.
Eric Salio en direct d'Australie pour RMC. Et puis tiens, les Bleus qui rejoueront demain à l'Euro de handball contre le Portugal, plus le droit à l'erreur après leur défaite contre le Danemark 32-29. C'était hier soir le premier match du tour principal.
Merci Quentin Vinet, c'était le journal de 8h sur RMC. Tiens, si on parlait de jeux vidéo.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Le jeu vidéo dans la page écho, vous allez l'entendre. Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
Où s'arrêtera la descente aux enfers d'Ubisoft, le géant français du jeu vidéo?
Oui, songez que l'action a plongé de presque 40% hier en bourse. C'est une chute historique. L'entreprise qui a été créée en 1940 ans, elle va fêter ses 40 ans
86.
Cette année.
Waouh.
86, créé par les frères Guillemot dans une ferme bretonne, espérait sans doute effectivement fêter autrement son 40e anniversaire. Mais les investisseurs sanctionnent les dernières annonces de la direction, une grande réorganisation interne pour remédier aux déboires qui ont provoqué l'annulation de la sortie de 6 jeux, dont le remake très attendu de Prince of Persia, Les Sables du Temps. plus le report de 7 autres jeux, un nouveau plan de réduction des coûts d'au moins 200 millions d'euros sur 2 ans, en plus des 300 millions déjà consentis ces 3 dernières années. C'est vraiment le branle-bas de combat chez Ubisoft.
Alors, 6 jeux annulés, 7 reportés, comment on explique cette catastrophe industrielle?
Eh bien, c'est une multitude de facteurs qui se sont accumulés, un manque de créativité dans les jeux, d'abord à force de servir un peu la même mécanique de jeu sur tous ces best-sellers, hein, Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six Siege. Le public s'est lassé dans une industrie où l'audace paie souvent. Mauvaise maîtrise des coûts de développement aussi, hein, qui se sont envolés avec des temps de développement trop longs, des équipes dispersées dans le monde entier. Et puis, l'entreprise a été victime aussi d'une crise managériale avec des problèmes de harcèlement, de gouvernance, de culture d'entreprise, de plans sociaux. Il y a eu un énorme débat sur est-ce qu'il faut revenir au travail ou est-ce qu'il faut rester en télétravail. Vous savez que les créateurs de vidéos, ce sont des petits animaux un peu sauvages. Vous ne les faites pas revenir comme ça dans les bureaux. Tout ça
a impressions.
Et oui, tout ça a durablement abîmé l'image du groupe. Et puis, il y a aussi, il faut bien reconnaître, un durcissement de la concurrence avec, d'un côté, des groupes aux énormes moyens financiers qui peuvent engloutir des sommes considérables pour développer des jeux. Et puis, de l'autre, des petits studios très créatifs. Et Ubisoft se retrouve un peu au milieu du guet entre ces nouvelles concurrences.
Mais quel avenir, du coup, pour Ubisoft, Emmanuel?
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'état de santé du groupe. Alors, il y a une sortie par le haut qui est possible, mais qui est difficile, avec peut-être moins de jeux, mais des jeux meilleurs, plus créatifs. On resserre aussi le management, on réduit les coûts fixes. C'est pas la voie de la facilité. Il y a une autre voie qui est de gérer le déclin sous l'influence chinoise. Il faut rappeler que le chinois Tencent est devenu un actionnaire important d'Ubisoft. Qu'est-ce qui va se passer? Vente, démantèlement, etc. Ce serait une forme de déclin. En réalité, qu'est-ce qui sera le juge de paix? Peut-être les prochains épisodes d'Assassin's Creed qui, effectivement... En cas de succès, ce serait peut-être un moyen de relancer la trésorerie, la crédibilité de la création, la confiance des investisseurs. Un échec, en revanche, accélérerait sans doute tous les scénarios de repli.
Je crois qu'il y a un nouvel épisode prévu cette année. On suivra en tout cas l'histoire et la chute, en l'occurrence d'Ubisoft géant français, même si c'est pas terminé. Merci Emmanuel d'avoir expliqué justement le destin d'Ubisoft ce matin. Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Juste après, la semaine face à Canteloup, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 sur RMC et RMC Story, tous les jours. C'est tous les jours de manche.
Tous les jours, exactement. Bonjour, Arnaud. Y compris le vendredi. Et alors ce matin, les amis, je voulais vous parler d'amour. Car Jordan Bardella a été vu en compagnie de la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles à une soirée. Le début d'une idylle peut-être. J'espère qu'au moins il va la présenter à son copain, le député Mathias Renaud. Vous savez, celui qui croyait que les trans musicales de Rennes, c'était un festival pour les transgenres. Il va lui dire, Mathias, je te présente Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Il y a deux Siciles. Il y a plusieurs Siciles. Non, c'est comme la Haute-Corse et la Corse du Sud. C'est un titre de noblesse. Son père, le prince Charles de Bourbon, duc de Castro. Le roi d'Angleterre, il a eu un enfant avec Fidel Castro. Non, je t'expliquerai sur le trajet, Mathias. On part en soirée, on va chez un copain qui s'appelle Juste Leblanc. Je viens de te le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Hein? Mathias, ton prénom c'est Mathias, ça c'est juste. Et lui c'est pareil, c'est juste. Bon, allez, on a assez perdu de temps comme ça. On va pas enculer les mouches éternellement. Tu sais que ça, j'ai jamais réussi. C'est beaucoup trop petit. Il faut vachement bien viser. Bon, l'actu chaude. Donald Trump a renoncé à employer la force pour acquérir le Groenland. Il a renoncé au droit de douane. Tout ça 24 heures après le discours d'Emmanuel Macron à Davos, où il avait sorti les muscles et les lunettes de soleil. Macron, il a dû parader. Vous avez vu comment je l'ai mouché, le Donald? Si tu taxes mon champagne, mais je te ferme tous tes entrepôts Amazon, j'envoie 2 chasseurs à pain au Groenland, je me désabonne de Disney+, et il recule, allez, brr, brr, voyou. Macron, ça y est, il a plus peur de rien, une paire de lunettes, et c'est un super héros. Il va arriver au prochain Conseil des ministres avec son slip par-dessus son pantalon. Je suis Super Manu. Vite, le Cornux, mon fidèle compagnon, fais passer un budget.
Les insoumis veulent m'en empêcher, Super Manu.
Les monstres, tous à la Manu cave, dans la Manu mobile. Prends garde, Méluchor.
Alors, pour revenir à Davos, c'est bien parti, c'est vendredi, c'est détente. Alors, pour revenir à Davos, Trump a tellement gonflé tout le monde qu'il se passe un truc. L'extrême droite de toute la planète commence à s'en désolidariser. Franchement, sur Twitter, j'ai vu toutes les stars de la fachosphère sont remontées. Ils sont là, mais non, on était à ça d'avoir le pouvoir. Il est en train de dégoûter tout le monde de nous pendant 50 ans. Il va faire élire la gauche partout. Même Jordan Bardella me disait, bon, il a une belle énergie, mais c'est vrai qu'il donne une très mauvaise image du fascisme. Déjà, Hitler nous avait fait une pub très moyenne. On a commencé à peine à s'en remettre. Là, ça n'a pas dû.
Sans transition, Elon Musk aussi était à Davos hier. Cette semaine, il a provoqué le patron de Ryanair. Il suggère de racheter la compagnie aérienne pour y mettre un Ryan à sa tête. Ouais.
Que Ryanair soit dirigé par un Ryan. Entre lui et Donald Trump, c'est un jeu en ce moment. C'est qui sera le plus débile?
Je vais mettre un Ryan à la tête de Ryanair. Ben moi, je vais faire la guerre parce que j'ai pas eu le Noël de la paix.
Et si on mettait un Paul à la tête de Pôle emploi? Et Nolwenn Leroy à la tête de Leroy Merlin? Ou même François Hollande à la tête de la Hollande?
C'est brillant tout ça.
Alors, c'est du génie.
Ouais. Le conflit entre eux vient du refus de Ryanair d'utiliser le réseau internet de Musk, Starlink, pour fournir du wifi à ses passagers. Alors Musk l'a pris pour lui, mais pas du tout Elon. C'est juste que Ryanair ne fournit rien à ses passagers. Ça fait partie de l'expérience client. Attends, t'imagines, Mathieu, t'achètes un billet Ryanair, t'as de la place pour tes jambes et du wifi.
Non.
Remboursé, quoi. Remboursé.
Déçu.
Musk, c'est son truc de filer du wifi aux pauvres. Vous avez vu, dès qu'il y a un truc sinistre, genre une guerre, une répression, un vol Ryanair, il veut te filer du wifi. Alors que les pauvres n'aient pas à manger, bon, tant pis, mais au moins ils doivent pouvoir le tweeter. Par contre, ils risquent pas de gagner le combat de l'ego des milliardaires en rachetant Ryanair. Parce que d'un côté, t'as Jeff Bezos qui va dans l'espace en fusée. De l'autre, Elon Musk qui va aller à Beauvais en Airbus. C'est moins fun, quand même.
Comme
c'est
ça, moins classe. Alors, l'Europe menace de vendre ses actifs américains et Donald Trump a immédiatement menacé de mesures de rétorsion.
Ouais, mais on s'en fout. On est lancé maintenant. On cogne.
Allez.
Bien sûr, Trump, il peut nous menacer, mais la France a plus peur de rien. Les droits de douane, on s'en tape, on vend du luxe. Si le champagne devient deux fois plus cher, ça se vendra quand même, c'est pour les riches. L'autre option, c'est de couper les biens et services américains. Mais allez, vous pouvez nous couper Microsoft et Facebook. On s'en tape, on a nos Minitel et copains d'avant. Netflix, on a Louis la Brocante. On a Meurtre en Haute-Marne avec Samuel Le Billon et Karen Sherry. Je sais pas quoi. Les Nike, mais on vit très bien avec des Charentaises de chez Chauss Mouton. On s'en fout de boire du Coca-Cola, on a du Champomy. Et pourquoi on se taperait encore des Disney quand on peut se détendre avec le Big Deal sur RMC Story?
Ah, bah, c'est vrai,
c'est de chez nous. Et les films de Stallone, mais on a le top 14 et les émissions de Vincent Moscato. On peut tenir à l'aise sans les produits américains. On a RMC.
Allez,
vive nous.
Merci Arnaud de
Bon week-end.
On retrouve absolument quand vous le voulez en podcast sur l'application RMC. Il est 8h21. Merci beaucoup Arnaud. On va accueillir Valérie au 32-16 qui nous appelle de Rennes. On est en Ille-et-Vilaine. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Je crois que vous avez entendu le témoignage de Charlotte Presta tout à l'heure, c'était à 7h10 sur RMC, la maman d'Héloïse qui est atteinte d'une maladie génétique rare, lourdement handicapée et qui est venue présenter son parti pris tout simplement. L'administratif tue les aidants. Voilà ce qu'elle disait. Et Valérie, vous vous êtes reconnue dans ce témoignage, notamment dans l'idée que quand on a un enfant en situation de handicap, il faut refaire des dossiers tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans selon le handicap, comme si on pouvait guérir de ces maladies orphelines ou autres, Valérie, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait. Oui, moi j'ai un garçon qui est atteint d'un TSA et effectivement on a des notifications de MTBH tous les trois ans à relever.
Alors, pardonnez-moi juste pour les sigles, TSA ça veut dire que votre garçon
c'est
est autiste.
Trouble du spectre autistique, c'est
voilà.
Ça, tout à fait.
Et MDPH c'est la maison départementale des personnes handicapées, c'est avec elle qu'on gère ces dossiers-là.
C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, moi, il perçoit l'AAH, mais effectivement, quand on a des délais de 12 à 18 mois entre les renouvellements, bah, il s'est retrouvé sans revenu, on s'est posé la question de devoir quitter le logement, alors qu'on est quand même dans ce genre de pathologie, à essayer de les garder le plus longtemps possible autonomes. Donc, effectivement, ça a été un long parcours du combattant, où j'ai interpellé plusieurs fois la MDPH avec des réponses des fois où c'est à lui d'appeler, c'est on peut pas vous prendre vous, ou ah oui on sait bien mais on peut rien faire. Donc j'ai fini par interpeller jusqu'au référent handicap de Rennes pour essayer de faire avancer les choses, mais ils n'ont pas grande réponse malheureusement.
Il va falloir que ça avance là-dessus, parce que par exemple je prenais le témoignage de Charlotte Presta tout à l'heure, la maman d'Héloïse, 18 mois qu'elle attend son dossier. Son dossier, elle s'y est pris juillet 2024 pour l'été dernier, pour l'été 2025, et c'est toujours pas en place. Donc effectivement il y a urgence pour certains, des frais engagés aussi, et tout le monde ne peut pas se permettre d'avancer les frais. Merci Valérie d'avoir corroboré ce témoignage, si j'ose dire, d'avoir réagi en tout cas. Vous vous êtes reconnue dans le témoignage de Charlotte Presta tout à l'heure. Partagez-le aussi, parce que je sais que beaucoup de parents qui nous ont entendus se reconnaissent dans cette situation. N'hésitez pas à partager le témoignage via l'appli RMC. Dans un instant, sur RMC et BFM TV, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui répond aux questions de Laurent Neumann.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Laurent Neumann.
Bonjour Jean-Noël Barrot.
Bonjour.
Il est 8h28, vous êtes sur RMC et BFM TV, vous êtes ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, vous étiez à Davos hier, il y a eu ce sommet européen extraordinaire à Bruxelles. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser sur Donald Trump, sur le Groenland, sur l'Ukraine, mais d'abord l'actualité c'est ce pétrolier en provenance de Mourmansk en Russie, le pétrolier cargo Grinch qui a été arraisonné en Méditerranée par la marine française, un pétrolier sous sanction internationale, suspecté d'arborer un faux pavillon. Emmanuel Macron disait hier, nous ne laisserons rien passer. On en sait plus ce matin, monsieur le ministre, sur ce navire. Il fait partie de la flotte fantôme russe.
Une enquête est en cours qui va déterminer la question de ce pavillon, les motivations de ce navire. Mais cette opération, qui est tout à fait conforme à celle qui a été menée il y a quelques mois, au mois d'octobre, au large de Madère, pour entraver la circulation des navires de la flotte fantôme que la Russie utilise pour contourner les sanctions qui ont été appliquées par les États-Unis, le Royaume-Uni.
Les sanctions sur l'embargo sur le pétrole russe.
Sur la circulation de navires battant faux pavillons pour continuer à vendre du pétrole et financer l'effort de guerre.
Il y a eu un signalement qui a été fait au procureur de Marseille. Il a été détourné, ce bateau, sous escorte. Vous pouvez nous dire où il est d'ailleurs, où, dans quel port il va aller mouiller ce bateau ?
C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de faire toute la lumière sur cette affaire. Et c'est à elle qu'il faut se tourner pour toute question.
Le président de la République a dit hier que cette opération avait été menée par la marine française avec des alliés. On a cité le Royaume-Uni. Il y a d'autres pays qui ont permis l'arraisonnement de ce bateau ?
Comme pour l'opération qui avait eu lieu au large de Madère, c'est en lien avec nos alliés, avec les pays qui, comme nous, soutiennent l'Ukraine et qui ont l'intention d'entraver la flotte fantôme que nous avons par ailleurs sanctionnée, que nous avons mené cette opération.
Alors l'autre actualité évidemment c'était ce sommet européen hier à Bruxelles, un sommet très attendu après toutes les déclarations de Donald Trump, notamment sur le Groenland. Finalement Donald Trump a dit qu'il n'aura pas recours à la force pour s'approprier le Groenland, qu'il n'y aura pas de sanctions douanières sur les pays qui ont envoyé des soldats au Groenland. Alors du coup, vous avez décidé quoi hier soir ? Puisqu'il n'y a plus d'escalade, il n'y a plus de riposte, mais on garde le pistolet sur la table, c'est ça l'idée ?
Les chefs d'État et de gouvernement ont constaté d'abord que les messages qui ont été adressés avec beaucoup de calme, mais aussi avec beaucoup de fermeté, ont sans doute contribué à faire évoluer la position américaine, qu'il fallait donc se tenir prêt à ce que, quelle que soit la menace et d'où qu'elle provienne, eh bien des messages puissent être adressés avec autant de calme et avec autant de fermeté pour produire les résultats utiles. Et ça, c'est un moment très important puisque c'est un moment où les Européens décident ensemble ou de s'affirmer comme une puissance, la puissance européenne, qui sait défendre ses intérêts.
Mais la semaine dernière, il était question d'un instrument anti-coercition. On parlait de rétablir 93 milliards de droits de douane. Tout ça, pour le moment, est mis de côté. Mais l'Europe reste vigilante au cas où Donald Trump recommencerait, si j'ose dire.
Quelle que soit l'origine de la menace, l'Europe doit pouvoir défendre ses intérêts. Et notamment lorsqu'il s'agit de ses intérêts essentiels, comme son intégrité territoriale. C'est pourquoi les pays européens dans leur ensemble ont soutenu le Danemark depuis le début de cette escalade. Et c'est pourquoi ils se tiennent prêts, à la lumière de cette expérience, à réaffirmer avec calme et fermeté leur intention de mobiliser tous leurs instruments. Ils sont nombreux et ils sont très puissants pour y parvenir.
Alors c'est vrai que l'Europe est apparue très ferme. On a même vu une forme d'alignement entre Paris et Berlin, ce qui n'était pas arrivé, ce qui n'était pas forcément évident. Mais en même temps, on voit Viktor Orban qui parade aux côtés de Donald Trump à Davos pour son Conseil de la paix. On voit Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui dit « moi j'envoie pas de soldats au Groenland ». Elle est ferme l'Europe, mais est-ce qu'elle est vraiment unie sur ces sujets-là ?
En l'occurrence, elle s'est donné les moyens de dissuader, disons, l'administration américaine d'aller, ou en tout cas de traduire ses paroles en actes à ce stade. Elle conserve ses moyens et elle se prépare à les mobiliser.
Alors c'est nous les Européens qui disons que Donald Trump a reculé. Lui, il ne lit pas la séquence de la même manière. Il dit en fait j'ai trouvé un accord avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, sans qu'on sache d'ailleurs très bien de quoi il s'agit, parce que cet accord il ne peut pas porter sur la souveraineté du Danemark. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans cet accord justement avec l'OTAN ?
D'abord, il faut souligner le rôle que la France a joué et celui du président de la République pour tenir cette ligne de fermeté que j'évoquais à l'instant. Mais cette ligne, nous l'avons
notamment en proposant une opération sous l'égide de l'OTAN.
Cette ligne de fermeté sur la défense de nos intérêts s'est accompagnée effectivement de propositions formulées par le Danemark que nous avons soutenues aux États-Unis s'agissant de la sécurité du Groenland et de la sécurité de l'Arctique.
C'était une manière de coincer Donald Trump d'ailleurs.
C'était une manière de montrer que les Européens sont prêts à prendre en charge les questions de sécurité, y compris dans l'Arctique et y compris au Groenland.
Mais cet accord dont Donald Trump parle avec le secrétaire général de l'OTAN, vous en avez pris connaissance ? Vous savez ce qu'il y a dedans ?
J'en ai pas les détails à ce stade, mais ce que je puis dire...
C'est quand même un problème, la France est membre de l'OTAN.
Ce que je puis dire, c'est que nous soutenons le Danemark, qui est évidemment souverain et qui est le premier acteur de cette négociation, et nous le soutiendrons toujours, ainsi que les autorités groenlandaises, qui connaissent l'appui des autorités françaises. Le président de la République s'est rendu sur place. Je me suis rendu moi aussi. Je m'y rendrai sans doute dans les prochaines semaines. Mais l'OTAN est effectivement le cadre que nous avons désigné comme étant le cadre pertinent pour apporter une réponse et pour que l'Arctique puisse être sûr. La sécurité de la sécurité de l'Arctique dépend de la sécurité européenne et c'est la raison pour laquelle il est bien naturel qu'au sein de l'OTAN, les Européens prennent en charge cette responsabilité.
Mais j'insiste parce que Mark Rutte a dit les Chinois et les Russes, il ne faut pas qu'ils aient accès économiquement et militairement au Groenland. Donc on comprend bien les questions de sécurité, mais derrière il y a des questions de souveraineté. Là pour le coup, ça ne dépend pas de l'OTAN, ça ne dépend que du Danemark.
La souveraineté est indivisible. La souveraineté sur le Groenland dépend du Royaume du Danemark et du gouvernement groenlandais, du peuple groenlandais. C'est dans cet esprit que nous nous sommes positionnés dès le premier jour et c'est la position qui est la nôtre aujourd'hui.
Encore un mot sur le Groenland. Vous aviez annoncé l'ouverture d'un consulat français à Nuuk, au Groenland. Il était question que ce soit le 6 février. C'est toujours à l'ordre du jour ?
C'est toujours à l'ordre du jour et comme je vous l'ai dit, je me déplacerai à l'invitation des autorités danoises et groenlandaises dans les prochaines semaines. La date n'est pas encore fixée.
À quoi ça sert un consulat au Groenland ? C'est symbolique. C'est une façon d'envoyer un message diplomatique pour dire nous les Français, on est là.
Oui, c'est ce que nous avons fait l'été dernier. Le président de la République s'est rendu sur place au début de l'été. Il a annoncé que nous procéderions à cette ouverture, qui était une manière d'affirmer notre présence sur place, notre volonté de cultiver les liens avec le Groenland. La ministre, ma collègue groenlandaise, a choisi la France lorsqu'elle s'est déplacée pour la première fois dans l'Union européenne, et je lui ai rendu la politesse en me déplaçant sur place.
Alors là, on a besoin de vos lumières ce matin parce que j'avoue qu'il y a quelque chose que j'ai eu du mal à suivre. Donald Trump a lancé une invitation à Emmanuel Macron pour participer à son Conseil de la paix, son Board of Peace. Et j'ai cru comprendre qu'Emmanuel Macron avait dit non. Et j'ai tellement bien compris que Donald Trump a immédiatement répondu en disant 200% de droits de douane sur les vins et les champagnes. Et puis là, j'ai l'impression que depuis quelques heures, la position de Paris est en train de d'évoluer. En gros, le Quai d'Orsay dit, à ce stade, nous le rejetons pas, ce Conseil de la paix, mais nous n'y adhérons pas. Il y a eu un coup de frein, si j'ose dire.
Non, nous avons soutenu la création de ce Conseil de la paix, de ce Board of Peace, lorsque il a été inscrit dans une résolution, dans un texte des Nations Unies au mois de novembre dernier, le 17 novembre.
Mais ça devait concerner que Gaza.
Et nous saluons les efforts de l'administration américaine pour faire avancer ce plan de paix que le président Trump a présenté. Vous vous en souvenez, à la fin du mois de septembre, plan de paix auquel nous avons ouvert la voie avec l'initiative que nous avions portée pendant un an avec l'Arabie Saoudite.
Mais alors pourquoi Emmanuel Macron a dit non, je n'irai pas ?
Et donc nous soutenons sans réserve la mise en œuvre du plan de paix. S'agissant du Conseil de la paix, du Board of Peace, qui a été lancé officiellement hier, nous avons indiqué, nous avons exprimé des réserves sur sa charte, c'est-à-dire sur son document constitutif qui, à nous comme à beaucoup d'autres pays du monde, paraît, je dirais, incompatible, ou en tout cas paraît pouvoir se substituer à la charte des Nations Unies, à laquelle nous sommes très profondément indéfectiblement attachés.
Rassurez-moi, la position de Paris, c'est que le Conseil mondial de la paix, c'est toujours les Nations Unies.
Exactement, et c'est la position de l'immense majorité des pays du monde.
Mais vous avez vu l'image hier quand même, elle est forte, elle est frappante. Donald Trump entouré de ses chefs d'État. Certains disent c'est l'ONU des dictateurs. J'exagère un peu, mais il y a Trump, il y a Poutine, il y a le Kazakh, il y a le Biélorusse. On peut y aller. Il y a l'Argentin Javier Milei.
L'essentiel, c'est que ce plan de paix passe de sa phase 1 à sa phase 2, que les points de passage humanitaires puissent être ouverts, que l'autorité palestinienne puisse se réformer pour progressivement pouvoir prendre en charge l'administration de Gaza lorsqu'elle sera prête, et que le processus de désarmement du Hamas puisse être enclenché. C'est la priorité qui a été celle de la France depuis longtemps, que nous avons inscrit dans un autre texte des Nations Unies qui a été adopté à l'immense majorité des pays du monde, et c'est ce à quoi nous appelons le Board of Peace, évidemment, à contribuer. Et tout ce qui ira dans ce sens-là, nous le soutiendrons. Et je dois dire que l'administration américaine, de ce point de vue-là, même si, évidemment, ce cessez-le-feu est encore fragile, la situation humanitaire est catastrophique, mais les efforts américains doivent être salués lorsqu'ils produisent des effets positifs.
L'autre grand sujet, c'est évidemment l'Ukraine. Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, a rencontré Vladimir Poutine pendant plus de 3 heures à Moscou. Volodymyr Zelensky a évoqué une trilatérale qui va commencer là à Abu Dhabi dans les Émirats. Cette trilatérale, c'est l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Il n'y a pas l'Europe.
Vous vous souvenez quand même qu'il y a 2 semaines, c'est à Paris que se sont retrouvés les pays européens, les négociateurs américains, le président Zelensky et son équipe pour finaliser...
Mais là, les Russes n'étaient pas là.
Mais pour finaliser l'ensemble des documents qui touchent aux questions de sécurité, qui touchent aux questions de prospérité, avant que, effectivement, les médiateurs, les négociateurs américains puissent se tourner vers Moscou. Donc nous n'avons pas manqué ces 2 derniers mois de séances,
donc
de négociations
très intenses.
Mais l'Europe a été absolument centrale dans les discussions entre les États-Unis et l'Ukraine depuis 2 mois, qui ont permis de bâtir un paquet pour la sortie de la guerre, pour le cessez-le-feu que Vladimir Poutine doit aujourd'hui saisir. Sans quoi nous continuerons à accentuer la pression sur lui au moment où il continue de pilonner les villes ukrainiennes, les infrastructures énergétiques. Et nous allons continuer à soutenir l'Ukraine. Et d'ailleurs, cet après-midi, je présiderai une réunion associant les pays du G7, mais aussi les pays nordiques et les pays baltiques, pour apporter des réponses à l'état d'urgence énergétique qui a été décrété par le président Zelensky. À cette occasion, la France annoncera qu'elle fournira à l'Ukraine l'équivalent de 13 mégawatts d'énergie, une centaine de générateurs, pour que dans les villes et dans les territoires où les infrastructures ont été détruites, ce soutien puisse être apporté, soutien qui viendra s'ajouter à celui des autres pays qui seront présents à cette réunion.
Alors il y aura les ministres des Affaires étrangères de ces pays, donc dans le cadre du G7 que la France dirige cette année. Vous allez demander aux Russes la restitution de la centrale de Zaporijja, parce que pour le moment c'est un régiment russe qui la possède, qui la contrôle. Est-ce qu'il faut la remettre à l'AIEA?
C'est l'un des sujets qui est au cœur des négociations.
L'autre sujet, Emmanuel Macron a dit que il faudra reparler avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, qu'un haut diplomate français se rende à Moscou pour poursuivre ces négociations avec Moscou?
Le président de la République a dit très clairement que si toutefois le processus actuel ne devait pas porter ses fruits, il était bien naturel qu'à un moment donné, les Européens se saisissent de cette question.
Est-ce que la diplomatie française pourrait se rendre à Moscou pour parler avec le président
russe ? Et en tout état de cause, une fois la page de la guerre en Ukraine tournée, et une fois que la Russie se sera donnée de nouvelles orientations, des orientations qui ne sont pas des orientations coloniales, qui ne sont pas des orientations anti-européennes, le moment venu, il nous faudra évidemment, une fois d'ailleurs que nous serons renforcés, il nous faudra avoir une discussion avec la Russie sur l'architecture européenne de sécurité.
Volodymyr Zelensky a été très rude hier avec l'Europe. Il a dit que l'Europe était fragmentée, qu'elle était un peu perdue, notamment dans sa réponse à Donald Trump. Ça vous a frappé, ces propos ?
Je constate que l'Europe a répondu, je le disais tout à l'heure, avec beaucoup de fermeté s'agissant des droits de douane ou de l'intégrité territoriale du Danemark. Je constate aussi que c'est désormais l'Union européenne, l'Europe, qui apporte la quasi-intégralité du soutien à l'Ukraine.
Il y a un sondage qui m'a beaucoup frappé, sondage ELAB pour BFM TV. Dans ce sondage, il dit que 4% des Français, je dis bien 4% seulement, considèrent encore les États-Unis comme un allié. 44% voient les États-Unis comme un ennemi et la moitié des Français disent c'est au mieux un partenaire, mais avec qui pour rester prudent. Est-ce que au fond la voie diplomatique française désormais est alignée sur ce ressenti des Français ? Ce n'est plus un allié Donald Trump ?
Je crois qu'en tout cas nous avons dit très clairement non, nous avons dit très clairement stop, et je veux saluer d'ailleurs l'unanimité qui s'est formée sur l'ensemble du spectre politique pour soutenir les positions du président de la République et de la diplomatie française cette semaine. S'agissant des États-Unis, avec les États-Unis nous sommes alliés, mais nous ne sommes pas alignés. Et quand je dis que nous sommes alliés avec les États-Unis en tant que tels, pas avec leur président en tant que personne, intuitu personné. C'est un élément à garder en tête.
Deux autres sujets rapidement dans l'actualité. Le Mercosur, le Parlement a voté la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce qu'il serait concevable que la Commission européenne passe outre et demande l'application immédiate du traité sans attendre la décision de la Cour ?
Je crois qu'elle doit respecter les procédures, respecter le Parlement qui s'est exprimé très clairement, d'une manière tout à fait cohérente d'ailleurs avec la position que la France avait défendue.
La porte-parole du gouvernement a dit que ce serait un viol démocratique.
La France a pris une position. Elle a d'ailleurs été, accablée, y compris par des médias français, la semaine dernière, comme étant isolée. Je constate que le Parlement européen s'est rallié.
C'est une victoire pour Emmanuel Macron, la décision, le vote du Parlement européen.
Je constate que le Parlement européen a pris une décision qui est absolument cohérente avec celle qui a été prise par le président de la République.
Et autre sujet, l'Iran, un mot sur l'Iran. Vous avez des nouvelles de Cécile Kohler et Jacques Paris. Ils ont été libérés de la prison d'Evin le 4 novembre dernier, mais ils sont toujours retenus en Iran. Vous avez de leurs nouvelles. On peut imaginer un retour en France bientôt.
Ils sont en sécurité à l'ambassade de France, à Téhéran. Nos compatriotes sur place, ils se sont inquiétés des conséquences que pourrait avoir la répression très violente, les violences d'État qui se sont déployées ces dernières semaines. Ils vont bien. J'aurai un contact avec eux aujourd'hui et je leur redirai notre soutien et notre mobilisation sans relâche pour obtenir leur retour en France.
Le plus vite possible. Aujourd'hui, c'est jour de motion de censure à l'Assemblée. D'ailleurs, dans quelques instants, après cet entretien, vous allez rejoindre les bancs du gouvernement. Le PS et les Républicains ont annoncé qu'ils ne voteraient pas cette motion de censure. Vous êtes inquiet ? Il y a quand même un risque aujourd'hui ?
Et je salue le sens des responsabilités du PS, des Républicains, mais aussi des forces centrales qui accepte un compromis qui n'a rien de parfait, mais qui permet au pays d'avancer dans un moment où il est confronté à un contexte international très dur et où il doit, s'il veut pouvoir peser, s'il veut pouvoir être entendu, faire preuve d'unité. Ceux qui, au contraire, chez la France Insoumise ou au Rassemblement National, multiplient les motions de censure, affaiblissent notre pays et son image à l'international.
A fortiori dans le contexte international qu'on vient de décrire. Merci Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
Merci Laurent Neumann. Dans un tout petit instant, l'actualité internationale toujours, mais à la sauce Nicolas Canteloup. C'est la semaine face à Canteloup. À tout de suite.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Et cette semaine, l'ancien commissaire européen Thierry Breton était dans le face-à-face et il est resté face à Canteloup.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
L'ancien commissaire européen a entre autres parlé donc du Groenland de Donald Trump, c'est ce que vous nous disiez à l'instant. Et quelqu'un qui vous a bien connu veut rentrer et réagir. Angela Merkel est avec nous.
Bonjour Madame de Valère, bonjour à Thierry Breton, bonjour à tous les Français. Très poli, toujours, je l'ai connu, toujours très poli, bien habillé. Toujours, bonjour à tous les Français. J'ai écouté Thierry Breton, l'actualité, pas rigolo, hein.
Non, pas rigolo, non.
Mais heureusement, il y a Macron pour sauver l'Europe. Et le nouveau Tom Cruise, avec ses lunettes. Et oui, a fait entre Tom Cruise et Jacques Dutronc.
Oui.
Il lui chante en boucle à Trump. Tu es le plus grand des voleurs, mais t'es pas très gentleman. Oui, ça l'énerve, le Donald, ça l'énerve. Mais il est très beau, Macron, avec ses lunettes. Sexy. Moi, si j'avais 20 ans de moins... je souhaiterais mon j'aurais tenté quelque chose. Mais voilà, c'est pas grave, je vais me rabattre sur Thierry Breton. Voilà.
Trump, si vous le voulez bien. Alors, comment peut-on arrêter Trump?
C'est bon, il va être arrêté, Trump. On a envoyé des soldats au Groenland. Et des soldats allemands, des commandos très sévères, très, très durs. Et à côté de ça, il y a les soldats français. Pour rigoler, de la 7e compagnie, au clair de lune. Aïe, j'ai glissé, chef. Et sinon, il y a une autre méthode. Puisque Trump, il va à Davos, en Suisse. Et on peut peut-être, pour arrêter Trump, lui présenter le prof de ski de Schumacher.
Oh non, c'est pas rigolo.
Je me tape les fers, j'ai dur. Oh, ça fait des vaguelettes. Comme on dit à Paris, fluctuat, nec me fers, j'ai dur.
Pour forcer les Européens à lui vendre le Groenland, Donald Trump a aussi annoncé une hausse des droits de douane. Et pour tenter de mettre fin à ce conflit, on appelle tout de suite Julien Courbet.
Oui, bonjour à tous, c'est Julien Courbet, bonjour à Pauline, bonjour à Thierry Breton qui est venu nous rejoindre dans ce studio, il est le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser non pas au cas d'une personne, chère Apolline, mais carrément, puisque cette émission prend une grande dimension, nous allons nous intéresser carrément au cas du peuple, groenlandais, qui ne souhaite pas vendre son pays, c'est notre dossier, ne souhaite pas vendre son pays à un certain monsieur, je prends ma fiche, Monsieur Trump, je crois, voilà. Donc nous allons, vous savez ce qu'on va faire, ma chère Apolline, nous allons tout de suite, en régie, appeler ce monsieur voilà. Trump, on compose le numéro en régie.
Hello.
Oui, monsieur Trump, pardonnez-moi de vous déranger, c'est Julien Courbet, désolé, je vous appelle de la part de personnes qui se plaignent, il semble que vous voudriez acheter un pays qui n'est pas à vendre.
Ok, c'est pas grave, si je peux pas l'acheter, alors je vais le voler. Si, comme le Venezuela, non. Et s'il y en a qui sont pas contents, je mets aussi des droits de douane. De 200%.
Non, écoutez, attendez, monsieur Trump, ne faites pas ça, monsieur Trump. En plus, je vois sur ma fiche que vous êtes dans le commerce et j'ai un de vos petits fournisseurs, qui est un certain monsieur Macron, qui n'est pas content, qui ne voudrait plus vous vendre ses spécialités et produits du terroir.
Oui, je le connais, c'est Emmanuel. Je connais bien, c'est un chic type, le Tom Cruise, Marc Repère. C'est pas grave, s'il veut plus me vendre. Alors, je me passerai de ces Twingo et de ces films chiants avec Vincent Lando. Et vous, de votre côté, faudra vous passer de Microsoft et de Google.
Non, écoutez, monsieur Trump, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez, surtout quand le vendeur ne veut plus de vous, ne veut pas de vous.
News, tout s'achète. Même le Groenland. Regarde, Courbette. Mélania, elle était froide et elle voulait pas de moi, comme le Groenland. Eh ben, je l'ai acheté quand même.
Non, écoutez, on entend votre position, ça se défend, monsieur Trump. Mais on ne lâche pas le dossier, nous reviendrons vers vous, parce que vous connaissez, chère Apolline, cher Thierry, le slogan de notre émission. Ce n'est pas parce qu'on a servi à rien cette fois-ci qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois.
Nicolas Dufourcuit, directeur général de BPI France, était mon invité ce matin dans le face-à-face. On est évidemment revenu sur le discours de Donald Trump à Davos et puis sur celui d'Emmanuel Macron.
Hey! Bonjour à tous et à toutes. Ça va, je vous impressionne.
C'est très impressionnant.
Oui, ben écoutez, j'y vois mal. Alors je vois les. Non, ça vous impressionne pas trop avec mes lunettes de badass comme ça et mon charisme de biker tatoué.
C'est vrai que c'est très impressionnant.
Attention, je crois qu'il y a Élise Dangean qui est en train de s'évanouir.
Ah, oui. Amoureuse.
Mme de Malherbe. Chère Apolline, vous voulez toucher mes pectoraux?
Ça va aller.
Attention, parce que l'acier c'est froid.
Ah oui. Monsieur le Président, vous étiez donc du côté de Davos pour le Forum économique mondial. Le contexte est très tendu. Comment ça se passe avec Donald Trump?
Mais écoutez, il passe son temps à me chambrer, me demander de le rejoindre dans son conseil de la paix. Mais vous iriez-vous dans un conseil de la paix quand la paix est assurée par Trump, par Poutine, Orban et Javier Milei, hein? Franchement, mais non, c'est un peu comme aller dans une jardinerie Michel Fourniret ou dans une crèche Véronique Courgeot. Je dis non, merci.
Alain Marchal nous rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain?
Eh bien, bonjour Apolline. Aujourd'hui, dans les GG, nous reviendrons bien sûr sur les tensions autour du Groenland avec notre spécialiste Bernard Jansin, qui est frigoriste à Rungis et qui en plus a regardé l'âge de glace 2 avec son petit-fils. Il viendra donc témoigner à juste titre dans les GG. Puis, quelles conséquences après que Donald Trump ait annoncé une hausse des droits de douane? Nous en parlerons avec Serge, qui est bien placé pour en parler puisqu'il travaille au musée d'Orsay et qu'il connaît donc très bien le douanier Rousseau. Et puis enfin, nous reviendrons sur le procès de Marine Le Pen avec Ricardo González. Ricardo González qui connaît bien le sujet des emplois fictifs puisque justement cela fait 8 ans déjà qu'il est professeur de Zumba au Sénat.
Ah oui.
Voilà que chaque matin, les meilleurs experts sont dans les GG.
Nicolas Canteloup, vous retrouvez quand vous voulez en podcast sur l'application RMC et en direct lundi matin. Le vrai Alain Marchal est là à présent. C'est parti pour les GG. Salut Alain.
Bonjour à tous. Dans les grandes gueules aujourd'hui, une sophrologue, Laura Varton-Martinez, un éducateur à Belbouilly. Nous serons avec un médecin, Jérôme Marty. On parlera fraude au stationnement. On évoquera aussi la piste intrafamiliale privilégiée après le meurtre de Nice à un homme, le suspect numéro 1 qui était sous contrôle judiciaire. Et puis, on s'intéressera aux élections municipales à Paris avec la candidate Sarah Knafo, elle sera l'invitée des GG.